Europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue en Pologne, bienvenue à Wrocław, capitale européenne de la culture 2016, privilège qu'elle partage avec Saint-Sébastien en Espagne où nous étions il y a encore quelques semaines. Alors que sous l'impulsion de Jarosław Kaczyński, la Pologne se replie sur elle-même, Wrocław 2016 veut porter les valeurs de l'autre Pologne et entend créer des espaces pour la beauté. Successivement sous domination polonaise, tchèque, hongroise, autrichienne, prussienne, puis allemande sous le nom de Là-haut, Wrocław est redevenue polonaise au lendemain de la guerre en 1945. Autant dire que Wrocław est à elle seule un carrefour de l'Europe. Je vous présente les invités qui ont bien voulu nous rejoindre dans la bibliothèque de l'Alliance française de Wrocław. Jerzy Dudek, bonjour. Vous êtes professeur à l'école supérieure de la finance à Wrocław et vous avez été vice-président de l'Alliance française. Quelque chose me dit que vous êtes encore très impliqué dans la vie de l'Alliance française de Wrocław.
Oui, tout à fait.
Xavier Chantry, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas polonais, vous êtes belge, mais vous vivez ici à Wrocław depuis déjà de longues années. Vous êtes professeur à l'université de Wrocław et vous avez traduit un pavé phénoménal, 800 pages environ, qui s'appelle Microcosme et qui permet de tout comprendre sur l'histoire de Wrocław et en quoi l'histoire a évidemment fasciné la ville. Christian Danovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes premier violon solo à l'orchestre de chambre Leopoldinum. Marta Lasek, bonjour. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Vous êtes journaliste à Gazeta Wyborcza, qu'on peut traduire par le journal électoral, même s'il n'y a pas tout le temps des élections en Pologne. Marta Kepa, bonjour.
Bonjour,
Dzień dobry. Vous êtes responsable des micro-projets de Wrocław 2016, évidemment Wrocław 2016, capitale européenne de la culture. Et puis Eric Caron, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas polonais, quoique vous êtes en train de le devenir un petit peu, puisque vous avez été un étudiant Erasmus et vous êtes tellement plus à Wrocław que vous êtes resté. Et maintenant, vous travaillez dans une grande entreprise multinationale. Rien n'est jamais simple en Pologne, pour ne pas dire que tout est toujours un peu compliqué, à commencer par l'écriture des mots et des noms, évidemment leur prononciation. Par exemple, Wrocław, cela s'écrit W-R-O-C-L-A-W. Mais ça se prononce comment, Jerzy Dudek?
Wrocław.
Wrocław. On peut dire Wrot et soif après.
Tout à fait.
Et alors les habitants de Wrocław, on les appelle comment?
Wrocławiacy.
Ben, j'avais cru comprendre que c'était des Vratislaviens.
Oui, on peut dire en français, tout à fait.
On va rester avec des Vratislaviens parce que ça reste quand même compréhensible. Alors, pour nous situer sur une carte, je vais m'adresser à Eric Caron. Wrocław est à l'ouest de la Pologne.
Tout à fait. Hein,
pas tout à fait au sud, mais quand même déjà au sud-ouest de la Pologne, pas tout à fait, mais presque. À combien de kilomètres de Varsovie?
À ma connaissance, il me semble que c'est 300 kilomètres.
Et à combien de kilomètres de Berlin, si quelqu'un peut répondre?
350.
On est donc pratiquement à mi-distance entre Berlin et Varsovie. Et la précision n'est pas que géographie, puisque je pense que ça a aussi une importance historique. Elle explique pourquoi Wrocław a vécu depuis son existence sous de multiples influences et dominations que j'évoquais, tchèque, hongroise, polonaise, autrichienne, prussienne et allemande, avant de redevenir polonaise. Est-ce qu'on peut dire qu'on est ici à Wrocław au centre de l'Europe? Qui veut rebondir? Christian Danovic, peut-être?
Je rebondis un peu au deuxième degré, mais j'avais un professeur qui était ukrainien, qui venait de Lvov.
Qu'on dit Lvov ou Lviv?
Lviv, voilà, alors là on va choisir Lvov. Et qui me racontait que pendant son enfance, donc avant la guerre, c'était une ville polonaise, et c'était le plus grand carrefour d'Europe, parce que tout ce qui allait en Russie passait par Lvov. Et donc j'en rebondis là-dessus, parce qu'en fait toute la population, en tout cas une grande partie de la population de Lvov, s'est déplacée à Wrocław, et Wrocław redevient, elle a toujours été un carrefour de culture européenne, mais elle le redevient avec cette population qui est venue.
On va y venir, c'est évidemment essentiel dans la compréhension de Wrocław aujourd'hui. Alors on peut aussi dire que le fleuve Oder est important ici, il a de multiples branches, ce qui fait qu'on appelle parfois, Xavier Chantry, Wrocław la Venise polonaise. C'est exagéré ou pas?
Oui, je pense que c'est quand même un petit peu exagéré.
On n'a pas de gondole tout de même. Le climat, pour le moment, il fait beau, mais disons que le climat n'est pas toujours le même qu'à Venise. Et d'une manière générale, on a quand même pas mal de cours d'eau, de canaux qui font que c'est une belle ville, comme toutes les villes où il y a un fleuve, hein, évidemment. On en a beaucoup de ponts aussi.
Et il paraît qu'il y a, voilà. Je ne les ai pas tous comptés, je me suis contenté de le lire quelque part, qu'il y a 112 ponts à... Pour ça, vous confirmez, Martha ?
Alors, je ne sais pas s'il y en a 112, mais je sais qu'il y en a plus que
vous êtes comme moi, vous ne les avez pas comptés.
Il y en a beaucoup, en tout cas.
Il y en a beaucoup. On va se mettre d'accord sur l'idée qu'il y en a beaucoup. Alors, comme on n'a pas le temps de retracer l'histoire millénaire de Wrocław, j'aimerais que nous attardions sur la période contemporaine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Wrocław s'appelait Breslau. La ville est allemande, mais ce sont les soviétiques qui la libèrent des nazis, Xavier Chantry.
Oui, alors la fin de la Deuxième Guerre mondiale ici à Wrocław s'est terminée justement par ce qu'on a appelé la Festung Breslau, c'est-à-dire en allemand la forteresse Breslau. Et en clair, les derniers restes de l'armée allemande, plus une grande partie de la population qui a été forcée de se mettre sous les armes aussi, a résisté dans une espèce de forteresse de citadelle à la fin de la guerre.
Et Hergé Dudek, Breslau est tombé après Berlin.
Oui, 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 tout à fait. Après la signature de
l'acte de reddition.
Exactement. De la paix à Potsdam. Hein. Donc, effectivement, Breslau résistait plus longtemps encore.
Que Berlin.
Que Berlin. Et bon, ça a donné des endommagements en infrastructures énormes. Breslau a été détruit environ 70%. Et surtout la partie sud, où venaient des Russes qui luttaient avec les Allemands, édifice. Donc, c'était vraiment une ruine.
Alors, la ville est en ruine. Elle est encore habitée par quelques dizaines de milliers d'Allemands, environ 150 000, je crois.
Exactement. C'était ce qu'on appelait des autochtones qui vivaient ici. Peu à peu, ils quittaient la ville pour aller en Allemagne.
C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas eu le choix. Ils avaient perdu la guerre.
Oui.
Ils n'étaient plus les bienvenus.
Exactement.
Et oui. Puis, il y a eu un redécoupage, bien sûr, de l'Europe à cette époque. Qui veut rebondir sur le redécoupage de l'Europe ? Xavier Chantry, peut-être ?
Bah oui, après la conférence de Potsdam, évidemment, il y a eu un redécoupage de l'Europe et la Pologne. Enfin, en tout cas, cette partie de l'Allemagne, qui à l'époque, c'était encore l'Allemagne, a été incorporé à la Pologne, au nouvel État communiste polonais créé par la volonté des soviétiques après la Deuxième Guerre mondiale.
C'est-à-dire qu'une partie de la Pologne est devenue soviétique,
et une partie de
l'Allemagne d'avant la guerre est devenue polonaise.
Un peu après.
Pas véritablement soviétique, mais disons que c'était un pays satellite de l'Union soviétique.
Ouais.
Voilà.
Ukraino-soviétique, on va dire. Mm-hmm. Alors, donc les Allemands sont partis. Et des Polonais sont arrivés. Ils venaient d'où ? Qui veut rebondir, Martha ?
Oui, en fait, j'ai lu un livre très intéressant qui a été écrit par un auteur allemand qui s'appelle Gregor Thum. Le livre s'appelle Uprooted en anglais, parce que je l'ai lu en anglais. Et donc, d'après lui, c'était le plus grand nettoyage ethnique de l'histoire, en fait, ce qui s'est passé à Wrocław, en Silésie. Parce que 12 millions de personnes ont quitté la Silésie. Et les personnes polonaises qui venaient pour les remplacer, c'était souvent les personnes qui avaient habité à l'est de la Pologne, qu'on avait perdu après la guerre. Mais aussi, il y avait plein de gens qui venaient de, par exemple, de Poznań, qui venaient ici juste pour trouver de l'emploi et pour commencer une nouvelle vie.
Combien de temps il a fallu pour que les Allemands qui restaient à Wrocław quittent la ville et soient remplacés par des Polonais chassés, eux, de l'Union soviétique, c'est-à-dire de l'Ukraine à l'époque, et qui sont venus, qui se sont installés à Wrocław? Ça s'est fait en combien de temps? Qui peut répondre?
C'est un processus qui a duré quelques années, 2 à 3 ans, je ne me souviens plus des dates exactes, mais... Disons que vraiment, c'est un peu comme une déportation, en fait. On a amené les gens ici de l'Est, c'est-à-dire de Vilnius, par exemple, de Lvov. On les a amenés ici en train, dans des wagons, souvent des wagons à bestiaux ou des plateformes, hein, comme des marchandises. Et d'autre part, les trains continuent ensuite vers l'Ouest. Et ils emmenaient les Allemands, les derniers Allemands de Breslau, vers l'Ouest, vers
Et pour les plus chanceux vers l'Allemagne de l'Ouest, la future Allemagne de l'Ouest, pour les moins chanceux vers la future Allemagne de l'Est.
Et chacun arrivait avec une valise et on repartait avec une valise. Hein. Christian Danovitch.
Si je peux me permettre un petit détail, c'est que les gens qui arrivaient de l'Est, en tout cas c'est ce qu'on m'a raconté, étaient persuadés que c'était une déportation temporaire et que de toute façon tout changeait tellement vite au début du siècle, ils étaient sûrs de repartir dans leur ville d'origine, que ce soit Lvov ou... C'est un violoniste donc, qui habite maintenant à Berlin qui m'a raconté son père. A été déporté donc de Lvov, de son propre gré, de Lvov à Opole, c'est à 70 km d'ici, et il est mort 15 ans après la guerre, il n'a jamais défait sa valise, c'est-à-dire il avait toujours sa valise sous son lit qui était prête à être fermée pour repartir dans l'Est. Les gens étaient persuadés que tout allait revenir.
Alors en tout cas, c'est un cas unique dans l'histoire d'une ville qui se dépeuple d'une population et qui est repeuplée parallèlement par une autre population. Est-ce que ça veut dire que les plus vieux habitants de Wrocław, nés à Wrocław, ont maximum 70 ans, Jerzy Dusek?
Je suis né en 46.
Et vous êtes né ici?
Je suis né ici, près de l'Oder, à la maison. À l'époque, on n'allait pas à l'hôpital, mais...
Bien sûr, oui. En Pologne comme ailleurs, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça a changé sur l'identité de la ville, le fait que cette population nouvelle arrive? Quel était son état d'esprit? Évidemment, la ville était en ruine, comme le pays, d'ailleurs. Il fallait reconstruire, mais en quoi ça a marqué l'identité de la ville? Xavier Chantry.
Directement après l'arrivée des Polonais, disons en gros entre 1945 et 1950, bien sûr il faut se mettre dans la tête que c'était les autorités communistes qui dirigeaient tout ça. Et par conséquent, tout ce qui était allemand était mal vu. Et les autorités de l'époque voulaient faire croire, et même on mentit très longtemps sur l'histoire, c'est la raison pour laquelle Norman Davies et Roger Moorhouse ont écrit ce fameux livre que j'ai traduit. Les autorités ont menti très longtemps aux gens sur l'histoire de leur propre pays, sur l'histoire de leur propre ville. Et tout ce qui était allemand était mal vu, donc on a fait croire aux gens que tout ce qui était ici était polonais depuis les origines. On a beaucoup insisté sur les origines qui sont effectivement plutôt polonaises, plutôt slaves, disons, de Wrocław. Mais en réalité, tous les beaux bâtiments qu'on voit autour de nous en regardant par la fenêtre ont été construits par les Allemands. Alors, il y a eu un problème d'identité, je crois, qui était lié à... cette manière de détourner l'histoire, de mentir sur l'histoire, et de prétendre que les Allemands n'avaient rien fait ici.
Et d'ailleurs, le livre que vous avez traduit, l'auteur précise que, on lui a proposé, c'était un livre qu'on lui a commandé, il expliquait, l'auteur, je crois que c'est le maire de la ville de l'époque, oui. Il lui a expliqué que, il faut que ce livre soit écrit, non pas, ni par un Allemand, ni par un Polonais, il faut que ce soit écrit par quelqu'un qui a un regard un peu extérieur sur la ville. Éric Caron, on ressent ça quand on a un regard extérieur, le vôtre, français, d'Italie.
Moi, quand je suis arrivé, je ne me suis pas senti spécialement, disons, en Allemagne, je me suis plutôt senti en Pologne. Et maintenant, avec le recul, je me sens en Pologne, mais dans une ville qui est très, 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 très cosmopolite. C'est-à-dire que si on regarde maintenant, il y a quand même, du fait de la mondialisation, du fait de l'outsourcing, etc., il y a quand même un très, très grand nombre de sociétés qui sont venues s'installer ici, parce que la main-d'œuvre, forcément, est moins chère. Et puis, il y a également des aides de l'Union européenne. Et donc, on est une ville qui est quand même, moi, j'ai l'impression, à la base, qui était également très étudiante. Wrocław est une ville très, très, très étudiante. C'est-à-dire que, par exemple, là, cet été, ça va être très, très calme, en général. On sent quand même une ville polonaise, mais également une ville, voilà, cosmopolite. C'est-à-dire qu'il y a une très, très grande communauté, bon, français, peut-être pas trop, mais notamment lors de l'année universitaire, il y a beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup d'Italiens. C'est vraiment très, très cosmopolite à l'heure actuelle, définitivement.
Donc vous êtes l'illustration même, puisque vous êtes venu en Erasmus et vous êtes resté. Martin Lasek, vous qui venez de Varsovie, l'atmosphère ici, elle est différente de celle de Varsovie. Évidemment, Varsovie, c'est la capitale, mais il y a une différence, il y a une autre Pologne ici, à Wrocław.
Oui, je pense que c'est vrai. Puis c'est vrai que la capitale, c'est aussi un peu différent dans chaque pays. Je pense que il y a une ambiance spéciale dans la capitale, mais moi, je pense que Wrocław n'est pas vraiment considéré comme une ville très polonaise dans les autres régions de la Pologne. On n'y pense jamais vraiment. Quand on fait la liste des villes polonaises, on dit Poznań, on dit Cracovie, Varsovie, Mais Wrocław, c'est quand même quelque chose de très nouveau pour les Polonais.
De très différent. Éric, vous vouliez rebondir.
Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose importante. Moi, par exemple, quand je suis venu en Erasmus en Pologne, mon premier choix donc, était Wrocław, Varsovie. Il y avait également Cracovie. Et donc, il faut savoir que Wrocław et Cracovie sont des villes, pour moi, assez similaires. Par rapport à ça, également, pour revenir un petit peu à l'historique de Wrocław, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à côté de nous, là, justement, le Renek. Donc, le Renek qui veut dire la base marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wrocław, tout comme Poznań et donc également, il me semble, Gdańsk, ont tous les trois des centres-villes qui sont quasiment similaires et qui sont à la base historiquement des marchés, c'est-à-dire que c'est des endroits d'échange. Et donc on a conservé cette infrastructure, on va dire cette architecture, et on peut vérifier également par soi-même sur Internet en regardant des photos, c'est quand même très très atypique et ça se trouve uniquement à Wrocław, à Poznań et à Gdańsk, et c'est très différent de ce qu'on peut trouver à Varsovie, qui est plutôt la capitale et qui est vraiment, moi je suis allé une fois à Varsovie.
Une seule fois?
Oui, et je me sentais vraiment...
Ça ne fait pas vous un aventurier.
Non, définitivement pas. Non, je me sentais vraiment dans une ville un peu plus européenne que polonaise, et ça confirme effectivement ce que Martha disait.
Alors, il y a quelque temps, on craignait le retour des Allemands. Aujourd'hui, est-ce qu'on le souhaite? Parce que les Allemands, quand ils viennent ici, ce sont des touristes, ils dépensent beaucoup d'argent. Qui veut rebondir sur le retour des Allemands, le retour pacifique, évidemment, des Allemands? Xavier Chantry.
De toute façon, ils reviennent de manière pacifique. Ils font des affaires ici, et ils font tout simplement leur marché aussi. On est à 200 km de la frontière allemande, mais vous avez le week-end des gens qui viennent de Bautzen, même de Dresde, pour faire leurs achats ici à Wrocław, pour faire des emplettes dans les centres commerciaux qui sont, semble-t-il, moins chers.
Donc je comprends, si j'ai bien tout compris, voilà. qu'on souhaite leur retour quelque part, en tout cas.
Bah, d'une manière générale, c'est des clients, quoi. On est content de les voir venir.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre les connaissances des derniers développements de l'actualité. Et on se retrouve à Wrocław dans 3 minutes, très exactement.
Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa i zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa koty i gołębie. Gołębie są jak zwykle głodne, a ja jak zwykle się przeziębię. Zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.
Autour de la
Pejskie.
Cruzement toute Europe.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours en Pologne, toujours à Wrocław, capitale européenne de la culture 2016. Je vous représente rapidement les invités qui ont pris place autour des micros de Carrefour de l'Europe, ici à la bibliothèque de l'Alliance française de Wrocław. Jerzy Dudek, il est professeur à l'école supérieure de la finance de Wrocław. Xavier Chantry, professeur à l'université de Wrocław et traducteur d'un énorme bouquin qui s'appelle Microcosme et qui permet de comprendre l'histoire de Wrocław. Christian Nanovic, il est premier violon solo à l'orchestre de chambre Leopoldinum. Marta Lasek, journaliste à Gazeta Wyborcza. Marta Kepa, responsable des micro-projets de Wrocław 2016. Et Eric Caron, ex-étudiant Erasmus, qui maintenant travaille dans une société multinationale ici à Wrocław. Alors, dans la première partie de l'émission, nous avons longuement évoqué l'histoire, souvent tourmentée et tragique de Wrocław. Aussi, j'aimerais que l'on consacre le reste de ce carrefour de l'Europe au Wrocław contemporain. Et celui qui parcourt la ville aujourd'hui a toutes les chances de croiser sur son chemin d'étranges petits nains ou lutins, c'est selon, qui ne mesurent guère plus de 30 cm. On les retrouve dans toutes les positions, en pompiers, en allumeurs de réverbères. Il y a même un prisonnier derrière ces barreaux. Intrigué, j'ai demandé à Beata Vers de me raconter l'histoire des lutins ou des nains, c'est selon, de Wrocław.
C'est un esprit qui était né pendant la période très dure de notre nouvelle histoire. L'année 1981, tout le monde se rappelle de Lech Walesa, Solidarité, Solidarność au bord de la mer Baltique. Wrocław était un participant très actif de tout le mouvement de solidarité. Alors, ces étudiants ont voulu aussi joindre le mouvement de solidarité. Ils ont décidé de montrer la réalité alternative à la leur, puisque critiquer le gouvernement, c'était interdit. Ils ont pensé de la Blanche-Neige, les sept nains. Ils ont choisi la couleur orange, qui les marquait de la fin de leur chapeau pointu jusqu'à la fin de leurs chaussures pointues. Ils étaient orange.
Ça veut dire qu'ils ont fait des manifestations de nains et de lutins?
Oui, voilà. Ils s'étaient organisés comme Alternative Orange, c'était leur nom. Et ils organisaient les happenings dans les rues de la ville de Wrocław. Au lieu de critiquer le gouvernement, ils le ridiculisaient. Je pense que c'était encore pire. Alors, pour éterniser un moment où tout le monde parlait des lutins de Wrocław, le conseil municipal a fondé deux petits lutins en un autour d'une grande boule en granit. Il essaye de la porter. Bon, je dirais mission impossible, bien sûr, puisque la boule est trop grande pour les deux. Mais c'est qui illustre leur activité. Alors, en faisant un raccourci, je dirais que, entre autres, grâce aux lutins de Wrocław, le mur de Berlin est tombé.
Alors, des lutins, il y en a combien à Wrocław? Les ponts, on a compté dans la première partie de l'émission, on est arrivé à 112, mais des lutins, qui sait combien il y a de lutins à Wrocław? Je m'adresse autour de la table, personne ne répond, personne ne les a comptés.
C'est difficile ils à dire parce qu'ils se multiplient, en fait. Toutes les semaines, il y en a un nouveau, ou presque. Donc,
c'est un processus continu. Bon, je crois aujourd'hui, on peut compter environ 200 lutins. Et dans l'Internet, vous pouvez trouver le chemin, les endroits, ou faire même des excursions, voir les différents professions qui représentent les lutins.
Alors, on connaissait la multiplication des pains, pour ça, c'est la multiplication des lutins, c'est ça?
Oui.
Alors, est-ce que ces lutins qui sont arrivés avec un mouvement politique pendant la période communiste, parallèlement à Solidarność, est-ce que c'est le signe que Wrocław est une ville rebelle? Jerzy Dudek, c'est vous le plus ancien de Wrocław autour de cette table.
Oui, c'est vrai. Moi, je crois que c'est la ville de Wrocław, surtout, et ses habitants sont surtout créatifs. Et ils ont des idées qui peuvent changer la réalité. C'était le cas de l'alternative orange. Et donc maintenant, le lutin attire le touriste. Oui. Et donc, je crois dans ce sens-là. Mais rebelle, je ne pense pas.
Marta Kepa, Wrocław 2016, capitale européenne de la culture, eh bien, aurait pu prendre le thème de la rébellion. Et finalement, non, vous avez choisi...
La beauté.
La beauté. Oui. Avec une idée, un thème générique, créer des espaces de beauté. Oui. Comment on peut créer des espaces de beauté dans une ville qui est déjà, et on ne l'a pas dit, extrêmement belle?
Extrêmement belle. Je pense que c'est une idée, c'est une méthode de la capitale européenne de la culture, Wrocław. Donc, comment on peut le créer? Par la culture, par l'art. on a créé le programme de Wrocław 2016 autour de cette moto. Donc c'est pour nous, on a aussi parlé un petit peu de l'histoire, de l'identité de Wrocławienne. Donc c'est à peu près à retrouver cette identité dans cette ville qui est maintenant polonaise, était allemande, était... Il y a aussi des influences ukrainiennes ici.
Christian Nanovitch, vous qui êtes l'artiste autour de cette table, est-ce que la beauté est en train d'éclore à Wrocław?
Artiste, je ne sais pas, musicien, on va dire, oui.
Ah bah, musicien, c'est un artiste.
C'est vrai. C'est assez incroyable ce qui s'est passé depuis les... Ça fait 5 ans que j'habite à Wrocław et je dois reconnaître que je venais de Varsovie, donc j'avais passé 5 ans à Varsovie juste avant. Au début, je trouvais que ça faisait un peu quand même vide.
Et... Un peu vide de province.
Voilà.
Comme
on dit en France. Mon épouse qui est varsovienne natale, donc elle a eu vraiment du mal à s'acclimater au début. Maintenant, ça fait 1 an. Donc, en gros, nous on travaillait avant à la Philharmonie, qui est une salle vieille. Pas très très belle, et surtout on répétait à la radio de Wrocław, qui est complètement excentrée et qui est un vieux bâtiment hitlérien. Ça vaut la peine de le voir. On voit un orgue en forme d'aigle du Reich. Ça, je pense que c'est une bonne attraction touristique. Par contre, c'était très 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 dépressif pour nous parce qu'on était loin, il se passait pas grand chose, on voyait même pas ce qui se passait en fait. Et maintenant, on nous a construit une salle. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
J'en ai entendu dire le plus grand bien.
Le Forum national de musique, qui est un peu la réplique. En tout cas, c'est la même compagnie qui l'a construite. Que la salle de concert de Lucerne, qui est l'idéal avec un grand I pour les salles de concert. Donc c'est une salle de 1800 personnes avec une acoustique excellente. Et là, ils ont fait venir cette année, bon, pour le grand public large, ça veut dire quelque chose. Ils ont fait venir l'Orchestre Philharmonique de Vienne, l'Orchestre Philharmonique de Londres, enfin LSO, ils en ont plusieurs. Ils ont fait venir Lang, les plus grandes stars, on peut dire, en tout cas en matière de musique classique. C'est quelque chose que même, j'habitais à Toulouse aussi pendant 5 ans. J'ai pas vu ça à Toulouse. En tout cas, je dois reconnaître que ce qui se passe cette année, j'espère que ça va perdurer, que ça va durer, mais c'est une révolution.
Alors, on a dit tout au long de cette émission que Wrocław était, de par son passé, un carrefour de l'Europe, ce qui contraste aujourd'hui avec, lorsqu'on se balade dans les rues de Wrocław, une population très très homogène. En Pologne, il n'y a pratiquement que des Polonais.
Si on voit des gens de couleur, en général, c'est des Français. Ils parlent français.
Alors, c'est quand même une situation qui contraste avec la plupart des situations des autres pays européens, notamment les pays européens de l'Ouest, où la population est, on va dire, plus mélangée. Comment Wrocław, capitale européenne de la culture 2016, se sent dans cette Europe où, en crise, en difficulté, on le voit tous les jours, alors que l'on célèbre donc toute cette année la capitale européenne de la culture? Qui veut rebondir? Éric Caron, peut-être.
Moi, j'ai envie de dire qu'en parlant effectivement avec pas mal de gens qu'on va appeler entre guillemets jeunes, par exemple, justement, par rapport à 7 euros de football, justement, je regardais le match récemment de la France avec une amie, elle me disait, Éric, dans ton équipe en France, la moitié ne sont pas blancs. Donc effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans les mentalités ici, je pense polonaises, des gens du moins à Wrocław, et je pense que partout en Pologne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vision, entre guillemets, de la société, peut-être pas du monde, mais de la société qui est très différente par rapport à la nôtre. Et c'est pareil, je connais également des gens qui sont partis en France en Erasmus, donc qui sont des Polonais, et ils me disaient que ne pas voir de personnes blanches, mais de personnes de couleur partout, ça les a impressionnés. Parce qu'ici, c'est vrai que les personnes de couleur ne sont pas présentes, ou alors très très peu. Donc, je pense que pour les Polonais, je pense que Martha et Martha nous confirmeront que c'est assez contrasté. Définitivement, il y a un très très gros contraste. Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi, effectivement, ici, quand je suis arrivé. Et c'est ce qui m'a aidé également dans ma décision, c'est-à-dire qu'il y a plus de... Moi, j'ai l'impression qu'en Pologne, l'unité nationale est quand même beaucoup plus présente qu'en France.
Martha Lasek, Éric Caron vous a donné la parole, hein, donc je me contente de vous l'attendre.
Je suis d'accord avec lui parce que, justement, je pense que ce qui contribue à cette peur ici en Pologne, c'est l'absence de réfugiés, l'absence d'immigrés, parce qu'on ne les voit pas, on exagère. Et moi, on a abordé ici le sujet d'Erasmus. Moi aussi, j'ai fait mon Erasmus en France, où j'ai habité pendant une année. Et effectivement, c'était pour moi peut-être la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui venaient de cultures différentes à un niveau assez proche, parce qu'ils étaient mes amis de la fac. Et je pense que maintenant, en Pologne ou à Wrocław, il y a beaucoup de jeunes, même de mon âge, qui n'ont jamais eu l'occasion de parler à quelqu'un qui vient de Maroc, par exemple, ou d'un pays hors de l'Europe.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescal.
Carrefour d'Europe est à Wrocław, capitale européenne de la culture. Alors, on vient d'évoquer l'idée que la Pologne est un pays très homogène sur le plan ethnique et de par sa population. Mais aujourd'hui, la Pologne est en plein paradoxe dicté par l'actualité. La Pologne s'est insurgée à travers le parti actuellement au pouvoir, le PiS, le parti du droit et justice. S'est insurgée à l'idée qu'un quota l'obligerait à accueillir quelques milliers de Syriens. Et aujourd'hui, après le vote du Brexit des Britanniques, eh bien, les Britanniques, pas tous, demande le départ des Polonais. Ils sont 850 000 à être établis au Royaume-Uni. Alors, comment vivez-vous ce paradoxe de cette Europe qui, finalement, n'est pas totalement à l'image de l'idée que la Pologne et les Polonais se font de l'Europe? Qui veut rebondir? Virgile Libet, peut-être?
Écoutez, moi, je crois qu'il y a une chose très importante. C'est-à-dire qu'on voudrait bien que les gens se comprennent entre les nations. Et donc, comment un Polonais doit comprendre un Français dans son comportement, un Anglais, un Tunisien, etc., etc. Il peut apprendre à comprendre uniquement en ayant des relations avec eux. Moi, j'ai passé 3 ans en Tunisie. C'était une expérience assez exceptionnelle. J'étais enseignant là-bas, à Gabès, la dernière ville avant les Sahara, n'est-ce pas? Donc, faut bien voir comment je peux aider et comment je peux apprendre la culture. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles, et ça, on voit chez nous à l'école. Moi, j'ai eu des cours, moitié-moitié, c'était des Ukrainiens et des Polonais. Ils ne se sont pas intégrés. Mais pas parce que le Polonais ne voulait pas les Ukrainiens et les Ukrainiens ne voulaient pas les Polonais. C'était la barrière de la langue. Ils ne comprenaient pas trop bien ce qui s'est passé pendant les cours. Et donc, vous voyez, il y a des barrières du type psychologique. Mais il faut essayer de réduire ça.
Mais il y a évidemment très peu de différence entre un Polonais et un Ukrainien. Par exemple, il n'y a pas la différence de la religion, par exemple. Qui veut rebondir sur ce paradoxe que vivent aujourd'hui les Polonais qui refusent les Syriens, mais qui ne sont pas forcément tous forcément les bienvenus dans le Royaume-Uni qui a voté pour le Brexit? Xavier Champier.
J'ai l'impression qu'en fait, on vit pour le moment une situation où toute la population européenne est un peu inquiète. C'est pas uniquement la question des Polonais ou des Britanniques. Et pour moi, ce qui est remarquable, c'est qu'actuellement, il n'y a pas un homme politique charismatique en Europe. Tout le monde est inquiet, tout le monde essaye de se replier. C'est en quelque sorte un peu naturel, non?
Alors évidemment, on est toujours le migrant et le réfugié de quelqu'un. Et les Polonais sont en train de le découvrir.
Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'y suis arrivée à Wrocław il y a 3 ans. Et pour moi, c'était un voyage. J'ai été accueillie par les gens de Wrocław.
Mais vous êtes polonaise.
Je suis polonaise, bien sûr. Mais en ce qui concerne le Brexit, après ce qui se passait, heureusement, je pense que la Pologne n'est pas le seul pays de l'Europe qui doit avoir honte de crise politique actuelle, mais ça me fait mal de savoir qu'on n'est pas les bienvenus en Grande-Bretagne, bien sûr.
Et peut-être que ça fait mal aux Européens de savoir que les Syriens ne sont pas forcément tous les bienvenus en Pologne. Éric, Caron, vous voulez rebondir ?
Alors moi, j'ai plutôt un point de vue qui est quand même assez... Enfin, après, c'est ce que je vois effectivement en étant ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration polonaise, pour moi, en Grande-Bretagne, et d'ailleurs dans les autres pays européens, elle est avant tout économique. C'est-à-dire que, justement, j'en parlais récemment encore avec une amie, elle me disait... Toi, tu travailles un mois en France, tu reviens ici, tu peux vivre 3-4 mois. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour moi, cette immigration polonaise en Angleterre et dans les autres pays européens, elle n'est toujours que temporaire. C'est-à-dire que, c'est, du moins c'est mon ressenti, peut-être que Martha, vous allez confirmer, moi j'ai l'impression que les Polonais émigrent plutôt d'une raison économique et reviennent après. C'est-à-dire qu'ils s'en vont, ils vont gagner de l'argent... Et après, quand ils ont amassé cet argent, ils reviennent. Et ils reviennent pour investir. Et il y a toujours une différence qui est quand même assez marquée, notamment au niveau des monnaies, c'est-à-dire du zloty et de l'euro. Elle est toujours marquée. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même, dans tous les cas, je ne vais pas dire que c'est positif pour les Polonais, mais c'est avant tout économique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Polonais ont un aspect familial très, très prononcé. Donc si, par exemple, ils vont travailler à l'étranger... Ils vont revenir pour les vacances de Noël, ils vont revenir pour des occasions, d'ailleurs les vacances de Noël qui sont très 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 célébrées ici, et pour toute autre raison, familiale, etc. Donc moi, disons que je ne m'inquiète pas plus que ça. Par contre, s'il s'agit des réfugiés, notamment syriens, etc., en Pologne, je vous avouerai que j'ai peur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Polonais ne sont pas forcément, même pas du tout pour, et les réactions pourraient être très dangereuses. Ouvertement. Moi, j'ai peur de cette immigration, pour eux. Et puis, pas forcément pour la Pologne, pas pour les Polonais, mais pour eux, définitivement.
Et je vous disais que c'est la Pologne et les Polonais sont en train de découvrir que l'Europe, ce n'est pas seulement qu'un grand marché.
Écoutez, oui, mais...
Que l'Europe s'est construite un projet politique qui se construit notamment sur la solidarité.
Vous savez, à l'époque, on en a pensé que nous allons avoir des États-Unis de l'Europe. Aujourd'hui, on sait que ça ne va pas se passer. Mais la séparation qui est maintenant dans les idées du parti qui est au pouvoir, elle est complètement fausse. Pologne ne peut pas vivre tout seul, entouré d'un mur. Là, ce n'est pas possible.
En tête à tête avec la Russie.
En plus, il faut bien comprendre que la Pologne va se développer, va augmenter son économie grâce à coopération avec les autres pays de l'Europe et non seulement de l'Europe. En ce qui concerne le Brexit, je suis ingénieur. Alors, je vois 52% ont été pour sortir de l'Europe, mais 48% ont voulu rester. Ce qui veut dire que 4% des Anglais ont décidé du Brexit. Pas de commentaire.
C'est ainsi que fonctionne la démocratie 4%. Au Royaume-Uni comme ailleurs. On va abandonner un instant les aspects politiques, économiques et un petit peu la philosophie européenne. Et en quelques mots, je vais vous demander aux uns aux autres une bonne raison pour venir à Wrocław cet été ou tout au long de l'année puisque les festivités de Wrocław 2016 vont se terminer en décembre. Je commence par vous, Xavier Chantry.
Bon ben je commencerai par dire, surtout à mes compatriotes en Belgique, qu'il pleut beaucoup moins ici qu'en Belgique. Donc,
donc venez.
Déjà, venez pour ça. Oui.
Martha Lassac.
Tous les projets culturels, justement, pour la capitale européenne de la culture, par exemple. Demain, il y a l'ouverture d'une exposition des œuvres de Marc Chagall, ce qui peut être très intéressant. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'événements culturels comme ça.
Jerzy Dudek, une bonne raison.
Oui. Écoutez, à mon avis, la bonne raison, est-ce que la ville, c'est une ville de jeunes gens. Nous avons 145 000 étudiants ici pendant l'été.
Pour une ville de 630 000 habitants, on ne l'a pas dit tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. Donc, ça donne un certain caractère et ça vaut la peine de venir, puisque c'est une belle ville, une ville européenne et en plus... une ville jeune.
Éric Caron.
Moi, je dirais l'atmosphère, définitivement l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on est plutôt, bon, forcément par rapport à la monnaie, c'est-à-dire qu'une personne qui va venir avec 2 euros en Pologne et qui va convertir ça en zloty, c'est quand même très très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut savoir que...
4 zloty pour 1 euro.
Oui, voilà. C'est vraiment, et les prix sont vraiment, vraiment pas chers. Donc, il y a, disons qu'il y a une conjoncture économique qui est très favorable. Et voilà, Wrocław est vraiment une très jolie ville. C'est vraiment très très bien. Il faut pas. Il y a des. J'entendais encore récemment des clichés comme quoi qu'il n'y a pas de tramway, etc. Enfin, le réseau de bus est très très correct. Même le réseau de bus national et les avions, etc. Il faut savoir que Wrocław est vraiment très dynamique et ça se sent intra Wrocław et également en dehors. Donc l'atmosphère, définitivement. Oui.
Et vous, bien évidemment, Martha, qui n'est pas responsable des micro-projets de Wrocław 2017, c'est vous qui avez à avoir le dernier mot pour inviter les auditeurs à venir à Wrocław.
Oui, je pense qu'une bonne raison de visiter Wrocław, c'est une grande festival de cinématographie qui commence mi-juillet, qui s'appelle « Des Nouvelles Horizons ». C'est un festival très connu, je pense, en Pologne, bien sûr, mais aussi en Europe. Il faut aussi savoir que Wrocław tient aussi un autre titre, la capitale UNESCO de livres. C'est aussi, donc on a commencé le mois de l'encontre avec des auteurs espagnols. Donc on peut aller à Wrocław et aussi connaît un peu d'Espagne.
Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci aux équipes de Wrocław 2016 et notamment à Magda Bebichevska et à Jamila Hamzil. Merci à l'Alliance française de Wrocław qui nous a accueillis. Des informations et la possibilité de réécouter cette émission sur RFI.fr et sur les applis mobiles mais gratuites de RFI dans les deux cas à la rubrique émission. On reste en contact via les réseaux sociaux Facebook et Twitter, bien sûr. Daniel Desescales, où que vous soyez, je vous donne rendez-vous à la rentrée car Carrefour de l'Europe va prendre quelques vacances, mais dès dimanche prochain et tout au long de l'été, une nouvelle émission Le Monde est à nous, une émission préparée et proposée par Alice Milo et Pauline Mocor. Au revoir et à très bientôt, et on va se quitter avec le groupe Bartholomew & Cotte qui nous interprète Miasto Spotkan, qui veut dire, et c'est tout un résumé de notre émission, La Ville des Rencontres. Au revoir.
Kiedy Jerzy Kichut sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć mu w oczy. Zlecą się, zanim się zlecą me w stada, gdy z nich wakacje ostatni grosz zedrą, żeby stoliki i ławki obsiadać, przejść się nad Odrę, umówić pod Fredrą. Ławka nad ławką, latarnia i salon zwany tramwajem. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi spotyka. Jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze. Ławka nad ławką, latarnia i salon zwany tramwajem. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi spotyka. kasztu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy albo krasnala, jagiatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie, na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia. Częściej spotykać.
Carrefour de l'Europe sur RFI. Priorité